Et je rends gloire à Dieu pour quelque chose qu'on voit dans cette église. Il y a une soif pour la parole de Dieu. Il y a une soif pour la présence de Dieu dans la prière, pour voir Dieu qui répond aux prières, le voir lui-même comme la réponse aux prières. Mais aussi, je le vois quand je prêche, il y a un désir d'entendre sa voix, de marcher dans ses voies. Et je ne prends pas ça pour acquis, je rends gloire à Dieu pour ça parce que c'est son œuvre. Il y a un homme que j'aime beaucoup et qui est un mentor pour moi, pasteur Mossman, m'avait dit, je pense que ça devait être autour des années 2000, parce que, ben, 2000, c'était, en fait, c'était après 9-11. 9-11, c'est 2001, hein, donc c'est ça, ça devait être autour de 2001. Ouais, Camille était né, donc après 2000. Il m'avait dit, le Seigneur va t'emmener à quelque part pour tout ça. C'est lui qui va décider où, mais le plus important, s'il y a une soif, un désir de Dieu et de sa parole, le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas la base. Fait que je suis reconnaissant que Dieu fait ça ici. C'est vraiment un honneur et une joie pour moi de vous partager la parole. Comme quelqu'un l'avait dit à un moment donné, ça donne juste, tu sais, c'est des choses que le Seigneur a parlé à mon cœur, ça donne juste que vous êtes là pour écouter ce que le Seigneur m'a dit. Donc, on est dans 1 Pierre au chapitre 2. Et nous allons, c'est simple le titre du message, nous allons considérer des briques et des pierres. En fait, le titre du message, c'est une question, des briques ou des pierres? Et vous allez voir pourquoi. Avez-vous, y a-t-il quelqu'un ici, vote à main levée, pas un vote, mais sondage à main levée, est-ce qu'il y a ici qui a déjà considéré la question des briques et des pierres dans la parole de Dieu? Bon, OK. Oui? Oui, toi? Non? Parce que j'avais jamais vraiment considéré... Tu sais, des affaires que des fois on le sait, là, mais tu t'es pas arrêté dessus, puis tu te dis, ah, il y a quelque chose là. Ben, on a lu tantôt dans 1 Pierre au chapitre 2, là, on va relire les versets 1 à 10... Puis on va parler des pierres bien spéciales. Ce n'est pas des pierres ordinaires, des pierres vivantes. On va relire, puis après ça, vous allez voir pourquoi je vous parle aujourd'hui de briques et de pierres. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon... Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y ont pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Seigneur, on te remercie qu'on peut prendre un instant maintenant pour s'asseoir ensemble à tes pieds et on veut être enseigné de toi à nos cœurs même. Esprit du Dieu vivant, toi qui es le vrai enseignant, toi qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, notre pierre angulaire de cet édifice que tu bâtis. Seigneur, on veut considérer ces choses avec sobriété, mais aussi avec foi, sachant que tu es le Dieu vivant qui bâtit une œuvre vivante, glorieuse, pour toi, pour te magnifier. Et Seigneur, qu'on puisse trouver chacun de nous comment tu nous fais participer à ça, comment on rentre là-dedans chacun, pour notre part. Et on prie que s'il y en a ici qui ne sont pas encore des pierres vivantes, lavées, rachetées par le sang précieux de Christ, qu'aujourd'hui, toi, le Saint-Esprit, tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils voient leurs conditions, qu'ils reconnaissent Christ comme le seul sauveur et qu'ils invoquent sa miséricorde pour le salut de leur âme. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais vous partager ce matin un de ces trésors de la parole de Dieu qui jusqu'à maintenant avait échappé à mon attention. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est des choses que je pouvais connaître, mais le Seigneur a arrêté mon attention à travers une lecture. Je lisais un article, puis c'était comme une petite affaire qu'il y avait dans l'article de main, ça parlait de briques puis de pierres. Puis là, j'ai comme fouillé un peu plus, puis j'ai découvert des choses fascinantes. Et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui. Ensemble, c'est pas très compliqué. Le passage qu'on vient de lire est en frappant contraste avec celui de Genèse 11. C'est quoi Genèse 11? La tour de Babel. Et je voulais juste que ce qui est dit là, bon, vous savez que tout le monde avait une même langue, les mêmes mots sur la terre, qui était parti de l'Orient. Ils avaient trouvé une plaine à Sinéa pour y habiter. Puis là, ils se sont dit l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dire encore, « Allons, bâtissons une ville dont, et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » On va revenir à ça tantôt. Mais quand on regarde ici ce projet de construction de Babel, versus celui qu'on vient de lire dans 1 Pierre au chapitre 2, il y a vraiment des différences très importantes. Le projet de Dieu exalte la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le projet des hommes, c'est l'auto-rédemption. Comment se sauver nous-mêmes? Parce qu'en passant, ils faisaient une tour parce que le déluge avait submergé toute la terre. Pour moi, c'était dit, on va se trouver un moyen d'être au-dessus des eaux si ça refrappe encore. Enfin, Genèse 11, c'est après le déluge. Un autre contraste. L'un décrit l'œuvre de Dieu par pour son œuvre d'édification spirituelle. C'est un édifice spirituel. Le Dieu vivant qui construit son Église. L'autre, Babel, c'est l'homme qui essaie de se sauver lui-même. On voit aussi que les fondements de ce que Dieu a fait sont éternels. C'est basé sur la grâce de Dieu et la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est vivant, c'est beau, c'est parfait. L'œuvre de Babel, c'est basé sur le sable de la bonne volonté humaine. Non, il y avait de la bonne volonté, on va s'assembler ensemble. Mais c'était de la rébellion face à Dieu et ça n'a mené qu'à la mort. Donc, il y a des points de contraste, de différence, mais aussi quelques points de ressemblance que je veux souligner. Les deux ont débuté depuis les temps immémoriaux. Hein, Genèse 11, là, ça fait longtemps, mais c'est quoi les pierres vivantes? On dit ça dans 1 Pierre, mais c'est pas, ça n'a pas commencé là. Ça fait longtemps que l'œuvre rédemptrice de Dieu a commencé. En fait, depuis la chute, Dieu a promis le rédempteur. C'est tout de suite là que Dieu a fait connaître ce plan à l'homme. Et non seulement ça fait longtemps que c'est commencé, mais ça continue. Et les deux ont continué de façon parallèle, de façon ininterrompue. Les deux essaient d'amener une délivrance, un salut. L'un amène une réelle délivrance, un réel salut parfait. L'autre est un désastre, ce n'est qu'illusoire. C'est les projets des hommes qui ne mènent qu'à la destruction. Et je crois que comme jamais, Dieu amène les deux entités, ces projets de construction, si vous voulez, les amène devant nos yeux d'une manière bien spéciale depuis 2020-2021. Pourquoi? Parce que, avec ce qu'on a vu dans la dernière année et demie, on voit essentiellement un retour à ces concepts, ces désirs de Babel. Faisons un monde, sauvons-nous nous-mêmes, sauvons-nous d'un virus, sauvons-nous de l'environnement qui se détruit, sauvons-nous de ci, de ça. C'est l'auto-rédemption et ça atteint des nouveaux sommets, des nouvelles... Mais en même temps aussi, on a vu comment Dieu, même dans des circonstances de même, Dieu, notre Dieu règne encore. Il ne s'est jamais laissé arrêter par ces choses-là. Il a continué à bâtir glorieusement son œuvre avec des pierres vivantes. N'est-ce pas ce qui fait notre joie de voir ça ici? C'est l'œuvre de Dieu, c'est éternel, c'est unique. Et donc, du même coup, 2020 et 2021 a été une révélation sur une nouvelle lumière de ces deux projets de construction. Mais le projet rédempteur de Dieu est tellement plus glorieux et parfait. Il est bon. Puis comme je disais, Ça a commencé dès que le péché est rentré dans le monde. Dieu a déjà promis que la postérité de la femme, qui est Christ, allait écraser la tête de l'ennemi, mais que cet ennemi allait blesser le talon de Christ. Ça, c'est la croix. On appelle ça le proto-évangile. Connaissez-vous Genèse 3:15? C'est ça que ça nous dit. Et pour continuer un peu, juste en guise d'introduction, ce que Dieu aussi a révélé, et ça fait quand même pas mal de fois qu'on en parle, mais ça va avec le thème du mois sur Dieu qui révèle les cœurs. Dieu a révélé aussi l'état spirituel de son Église. Certainement de notre Église, mais aussi de façon plus générale. Et qui en fait vraiment partie? N'est-ce pas qu'on a vu un peu un écho de ce que Dieu a dit à Élie? « Je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » On a vu un peuple qui s'est rassemblé au nom de l'Éternel envers et contre tous qui ont dit « Moi et ma maison, nous adorons l'Éternel. » Dieu a révélé ces choses à travers ce que nous vivons. Et c'est avec des pierres qu'il a fait ça. Dans son projet rédempteur, c'est des pierres vivantes qu'il utilise. Mais on a vu aussi, en parallèle à ça, un projet avec des briques. Les hommes, avec leur auto-rédemption, qui veulent se sauver eux-mêmes, ont utilisé des briques. Et vraiment, c'est ce qu'on va explorer dans le message ensemble. Et vous allez voir, la différence est très instructive. Maintenant, ça soulève une question très importante, et je commence avec ça. Ou je termine mon introduction avec ça, mais je commence avec tout de suite la question du salut. Où est ta confiance pour la rédemption? Est-ce que tu as été racheté par le sang de Christ? Est-ce que tu as été délivré de la puissance du péché et de la mort? Pas par tes bons efforts, pas parce que toi-même t'as fait, mais par ce que Christ a fait. Que Dieu lui-même a fallu qu'il envoie son Fils et que ta confiance est dans ce Fils. Christ, le Fils unique de Dieu qui a été envoyé pour te sauver de tes péchés. Est-ce que tu as passé par le salut? Est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ta vie? Est-ce que ta confiance est en lui et lui seul pour le salut de ton âme? Sinon, tu bâtis sur le sable. Tu ne bâtis pas sur le fondement éternel. Tu ne bâtis pas sur la pierre angulaire. Et c'est une question vraiment importante. Pourquoi? Parce que c'est une portée éternelle. Maintenant, il y a aussi quelque chose que je veux amener ce matin. Il est clair qu'on a devant les yeux avec cette idée de briques et de pierres, deux images qui sont claires, qui sont puissantes, qui nous rappellent que nous sommes dans des choses qui se préparent depuis longtemps, mais aussi que nous sommes proches plus que jamais, je crois, du retour de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on voit ces choses qui s'accélèrent et tout ça. Et c'est comme si la fin rejoint le début. Le projet de Babel, bon, ça a été mis à néant par Dieu. Mais l'homme veut encore se sauver lui-même puis faire un monde uni ensemble qui va se sauver du jugement de Dieu. Ça n'arrivera pas. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Mais en même temps, Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, alors que son retour approche, encore il bâtit, encore il appelle des gens à venir au pied de la croix pour être réconciliés avec lui. Et je crois que tout ça révèle beaucoup l'état de la situation de notre société, de notre vie, de nos églises, mais aussi l'état de notre cœur. C'est simplement ce que je veux qu'on regarde ensemble ce matin. Un message en deux points, deux révélations de ce qui est dans notre cœur à la lumière des briques et des pierres. D'abord, dans Genèse 11, j'y ai référé tantôt. Vous pouvez y tourner. Dans Genèse 11, les versets 1 à 9 nous parlent des briques. Les briques, c'est la révélation de la vanité humaine. La révélation de la vanité humaine. Si on commence au verset 3, ici, les hommes qui étaient tous réunis à un même endroit dans le pays de Shinéar, qui habitaient tous là, ils se dirent l'un à l'autre, verset 3, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Puis je vous dirais, Dieu a fait une très bonne job. Parce qu'on a, bien de la misère à comprendre quand il y en a qui parlent d'autres langues. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de la, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit dès le début, allez, puis dispersez-vous, multipliez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Au verset 3, ça dit « Faisons des briques, hein? Faisons des briques et cuisons-les. » Lorsqu'on comprend ici cette déclaration à la lumière du récit rédempteur, parce que je vous l'ai dit, hein, le récit des rédempteurs de Dieu a commencé bien avant ce projet d'auto-rédemption de l'homme, on comprend que toute la pensée, la philosophie ici, c'est celle du monde qui s'élève obstinément contre la volonté de Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a vu, je pense, ça fait une semaine ou deux, c'est quand on parlait de l'amour que Dieu est dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Déjà, le monde était monde et ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il voulait faire leur volonté, on va se sauver nous-mêmes et on va amener la rédemption ici sur terre. Et en ce sens-là, je pense que c'est important de comprendre, avez-vous déjà réfléchi sur ces fameuses briques-là? C'est quoi leurs caractéristiques? Il y en a quatre qui, je pense, qui devraient arrêter notre attention. Des briques, d'abord, elles sont artificielles, elles sont faites par l'homme, ok? C'est pas naturel une brique, ça dit ici, hein, ils ont fait, puis là, il y a un ciment qui le colle ensemble. Elles sont le fruit des efforts de l'ingéniosité humaine. Une deuxième caractéristique, des briques, elles sont identiques et uniformes. Ok, à toute fin parler, là, tu veux dire, normalement, elles sont identiques et uniformes, elles ne possèdent pas la signature de la création de Dieu. Elles sont très impersonnelles. Troisième caractéristique, très impersonnelles. Elles ne possèdent pas une fonction unique propre à chacune. Non, elles sont interchangeables. OK? On peut l'utiliser ici dans le mur, on peut l'utiliser là, ça n'a pas d'importance. Ça ne fait pas de différence. Elles ne sont pas spéciales. Ils n'ont pas quelque chose de spécial eux-mêmes. Et donc, à cause de ça, quatrième caractéristique des briques, elles ont très peu de valeur. On perd une brique, on la remplace. À brise, on en prend un autre. C'est pas très grave. Avouez que quand on comprend ça, là, on est un peu métaphysique, philosophique ce matin. On fait un parallèle entre les briques puis la société, le monde. OK? Donc, soyez bien avec moi avec ce que je vais vous expliquer. Avouez que quand on comprend c'est quoi cette brique-là, artificielle, uniforme, impersonnelle, sans valeur, n'est-ce pas qu'on peut voir un portrait spirituel effrayant de notre société où est-ce qu'on est considéré juste comme un numéro d'assurance sociale, quelqu'un qui a une job à cette place-là, puis t'es pas là, t'en prends un autre, puis... On a une société comme la nôtre qui a rejeté Dieu, qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur, qui nous a fait à son image, précieux, unique. Mais en rejetant ça, on devient de plus en plus, justement, artificiel, impersonnel, et sans valeur. Pourquoi? Parce qu'on rejette celui qui nous donne la valeur, qui nous a créé à son image. Puis qu'est-ce qui nous donne le plus de valeur? C'est quand on est racheté par le sang de Christ. Parce que ça montre que Dieu a versé son sang pour nous. Puis quand on accepte ça, là, on prend toute la valeur. Pourquoi? Parce qu'on accepte cette rédemption. Mais un monde qui rejette Dieu perd toute cette grandiose œuvre de Dieu. C'est pour ça que notre société... elle grandit en conformité. Okay? De plus en plus, le monde est tout pareil. Et de plus en plus comme un édifice de briques. Hein? On a toutes sortes de normes pour nous rendre uniformes. Puis on perd de plus en plus notre individualité. Juste une parenthèse là-dessus. Quand même qu'on on se couvre une partie de notre identité, voyez-vous comment on devient de plus en plus impersonnel? Mais ça va encore plus loin. Le travail et le rôle de chacun est interchangeable. Pourquoi? Parce que c'est comme, ben, toi, tu prends pas ce travail-là, puis tu sais, on peut faire du télétravail. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti là-dessus sur la fabrique de notre société. Et comme ça, chacun, de plus en plus, perd sa valeur individuelle, étant devenu, à toute fin pratique, inutile, échangeable. C'est pas étonnant qu'une société, un monde caractérisé par ce qu'on voit dans Éphésiens 4, 17 en arrive là. Écoutez bien ce que ça dit dans Éphésiens 4, 17 à 20. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On parle de la vanité humaine. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si on réfléchit là-dessus, on voit pourquoi on est arrivé au point où on est arrivé comme société. J'aimerais dire que ce n'est pas très glorieux, c'est plutôt un fiasco. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté Dieu essentiellement, c'est à cause de ça. Et ça, on peut s'attendre ça, comme je viens de le voir, avec des gens qui sont caractérisés par cette pensée, par ce cœur endurci, ayant perdu tout sentiment. C'est pas surprenant. Ce qui me dérange, par contre, c'est quand l'Église du Dieu vivant, des églises locales, rentrent dans cette construction et se conforment à cela. Là, ça devient problématique. Quand on suit les traces de ce projet d'auto-rédemption qui est un projet de destruction. Et je crois que ça montre qu'on est étranger au Dieu rédempteur, à son plan rédempteur. Puis c'est quoi la vie de quelqu'un de racheté? C'est quoi le but de la vie? On est des pierres vivantes. On va plus de détails à venir dans le prochain point. Mais pensez-y bien. De quoi avons-nous été témoins dans la dernière année et demie, si ce n'est pas Satan et le monde qui ont essayé de rendre l'Église du Dieu vivant comme une simple construction ordinaire? Écoutez bien si on en revient à nos briques. De faire de l'Église du Dieu vivant quelque chose d'artificiel, de simplement naturel, rien de spécial, pas distinctif, pas la signature du Dieu vivant. Ça, c'est la première caractéristique des briques. De rendre l'Église du Dieu vivant toute identique, uniforme, grise, conforme à toutes les mêmes normes, font toutes la même affaire, indifférenciée, interchangeable, en ligne. Et là, je parle littéralement et figurativement, en ligne, toutes pareilles, comme des briques, et sans valeur. Sans valeur propre, jetable, pas spéciale, pas précieuse, inutile, ou pour prendre le mot qui est utilisé pour nous décrire, c'était quoi? Non essentiel. Voyez-vous le parallèle? Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans, n'est-ce pas? Le monde a voulu faire de l'Église du Dieu vivant avec des pierres vivantes quelque chose comme avec Babel, avec des simples briques, toutes pareilles, sans distinction. Et ça, mes amis, de façon négative ici, c'est une raison suffisante, je crois, pour ne pas embarquer, rejeter cette tentative de subjuguer, de pervertir l'Église du Dieu vivant, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mais en plus, de façon positive, Dieu a tellement mieux à offrir. Je veux dire, Dieu, c'est pas ça, sa bâtisse s'est faite avec des pierres vivantes. C'est quelque chose, c'est une mosaïque, c'est glorieux, quelque chose qui est juste de Dieu, puis qui ne peut être que de lui, avec son édifice. Voyez-vous que vraiment, si on rentre là-dedans, on passe à côté de ce que Dieu fait. Non seulement on doit le rejeter, mais on doit embrasser ce que Dieu est en train de faire. Littéralement, c'est de la folie de choisir des briques lorsque nous sommes une pierre vivante. Je ne sais pas si je suis trop philosophe pour vous un beau dimanche matin, mais il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et mes amis, nous sommes des pierres vivantes dans les mains du sage architecte. qui bâtit un édifice tellement bon, tellement beau, tellement glorieux, que la Bible nous dit qu'il raconte, il magnifie la sagesse de Dieu. Éphésiens 3:10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça m'amène aux pierres. La deuxième révélation, non seulement on voit avec les briques la vanité humaine, mais on voit avec les pierres la révélation de la gloire de Dieu. Et on l'a ici, si vous êtes revenu dans 1 Pierre au chapitre 2, qu'on a déjà lu à deux reprises, la révélation de la gloire de Dieu avec ses pierres vivantes. Si les briques révèlent la vanité humaine, les pierres révèlent la gloire de Dieu par cette Église qui montre la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment? Parce que dans Éphésiens, ça nous montre que Dieu a pris des Juifs et des païens, a pris des gens complètement différents qui ne sont pas compatibles, puis les a mis ensemble pour ensemble glorifier Dieu, puis montrer comment Dieu est capable, Dieu est plus grand, puis Dieu prend ce que l'humain n'a jamais été capable de faire, quelque chose de beau, de l'unir ensemble en Jésus-Christ pour glorifier un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ça, c'est glorieux. Il n'y a rien à faire avec Babel, là. Je veux dire, c'est tellement meilleur, c'est tellement mieux, c'est tellement plus glorieux. Maintenant, cette œuvre produit une mosaïque. Ça donne pas que, tu sais, une œuvre architecturale toute pareille, non, ça donne une mosaïque, quelque chose de vraiment unique. Puis on a une description encore dans Éphésiens, chapitre 4, verset 16, du type d'œuvre que ça donne. Ça dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce n'est pas un édifice ordinaire. C'est pas statique, c'est un édifice qui continue à grandir. Puis c'est un édifice vivant. Pourquoi? Parce qu'il est fait de pierres vivantes. C'est incomparable. Dire, l'homme n'est pas capable de faire ça. C'est pas de ce monde. L'homme fait une bâtisse, ça finit là, est assis là. Puis elle ne bouge plus. Dieu fait une bâtisse qui continue, qui est vivante, qui continue de grandir, qui porte du fruit, qui s'édifie lui-même dans l'amour. Et la solidité de cet édifice glorieux, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, Jésus lui-même. C'est pour ça que ça dit au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » La pierre vivante, c'est Christ. L'ultime pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, nous, là, ça parle de nous ici. Au verset 4, la pierre vivante, c'est Christ. Au verset 5, c'est nous. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, on doit s'approcher de lui, la pierre angulaire, l'ultime pierre vivante. Pourquoi c'est si important? Parce que lorsque chaque pierre de cet édifice s'approche et solidement bâtie sur cette pierre angulaire, tout l'ensemble va s'édifier solidement. Christ est la pierre la plus importante. De ça dépend toute la solidité de la structure de la bâtisse. Et savez-vous quoi? Quand ça arrive, les gens ne vont pas glorifier les pierres, ils vont glorifier l'architecte qui a fait ça. Et les gens vont dire, waouh, ça c'est beau. C'est ça, la gloire de l'édifice de Dieu. C'est pas la pierre, c'est pas l'autre. Puis c'est celui qui a tout fait ça ensemble, qui tient tout ça ensemble par sa force toute puissance et pour sa gloire. Maintenant, je vais parler des caractéristiques des briques. Regardez bien le contraste avec les caractéristiques des pierres. Les pierres, on l'a vu ici, elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Et ça, c'est pas naturel. Avez-vous déjà vu? Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu une pierre vivante? Moi, j'en ai jamais vu. OK? On dit, hein, quand on fait de la physique, de la biologie, la pierre fait partie du monde inanimé. Ça fait, OK? Mais ici, il y a quelque chose de surnaturel. C'est une image que Dieu utilise à dessein pour parler de quelque chose qui n'est pas naturel dans ce monde-ci. Donc, une pierre vivante, surnaturelle. C'est une image de la régénération. Frère, tu as cité tantôt Jim John. Le verset que tu as cité, je l'avais mis ici comme référence. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une image de ça, une pierre vivante. On avait un cœur dur, pierre endurci. Dieu nous a donné un nouveau cœur. Puis c'est avec ça qu'il bâtit des gens qui ont renouvelé, qui ont régénéré par son esprit. Deuxième caractéristique d'une pierre, une pierre, c'est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Puis, c'est ce qui fait la beauté de l'ensemble. Ça ne fait pas quelque chose de tout pareil. Vous avez déjà vu ça, des maisons avec des revêtements en pierre, là. Il y a vraiment un cachet à quelque chose de spécial comparé à toute une maison en briques, toute pareille. Il y a vraiment quelque chose de bien plus beau puis d'unique. Une autre caractéristique des pierres, les pierres sont irremplaçables. La pierre qui va là, avec cette grosseur-là, puis là, tu ne peux pas la fitter là. Chacune a sa place spécifique. Elle est irremplaçable. Dieu l'a mis là. Lui, le sage l'achetait parce que c'est là qu'elle va. Puis l'autre qui va là, c'est là qu'elle va. OK? Irremplaçable, chacun a sa place. Et elles sont précieuses. Pourquoi elles sont précieuses? Parce qu'elles ont été rachetées par le sang précieux de Christ. Pourquoi elles sont vivantes? À cause de celui qui est vivant. Écoutez encore là, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, on voit, c'est tout à fait, c'est deux mondes, les briques puis les pierres, totalement opposés. Maintenant, au verset 5, ça nous parle d'édification. Hein, ça dit, nous, comme des pierres vivantes, on s'édifie pour former une maison spirituelle. Cette édification mutuelle de cette maison spirituelle est agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Si je pose un quiz ce matin, selon Hébreux 11:6, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? La foi. La foi, la façon d'être agréable à Dieu, c'est par la foi. Ça veut dire que chacun de nous ici, là, qui est rassemblé ce matin, on a besoin de rechercher Dieu. Comment s'approcher de lui, la pierre angulaire, pour bâtir cette maison? Il y a aussi l'image de l'autel qui est utilisé pour offrir des victimes agréables à Dieu. L'idée, c'est Dieu, où tu m'as placé, comment tu veux que, pour prendre du bon québécois, que je fit dans ce que tu es en train de faire. Dieu a une place pour chacun. Et est-ce que la victime, pour prendre ici l'image, là, parce que ça parlait aussi, bon, ça parle d'une maison spirituelle, mais aussi un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles. Pensez-vous que dans l'Ancien Testament, quand il offrait une petite brebis ou qu'il offrait un animal comme ça, pensez-vous qu'il avait son mot à dire? Ou même pour prendre une image, est-ce que Isaac avait quelque chose à dire? Il n'a rien dit. Il aurait pu dire quelque chose, d'ailleurs. C'était un jeune homme, son père était vieux. Il aurait pu opposer à son père. Il n'a rien dit. Non, la victime, elle n'a pas de volonté propre. La victime est complètement liée à la volonté de celui qui l'offre. La victime est abandonnée à la volonté de celui qui l'offre. Et là, je vais amener une illustration par rapport à ça. Savez-vous que des fois, il y a des images de même dans l'Ancien Testament qui ont une valeur en tant que telle. Savez-vous que dans Exode au chapitre 20, il y a quelque chose qui nous est dit, des fois on peut se demander pourquoi. Ça dit dans Exode 20-24, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Cet autel de pierre ne devait pas être taillé. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu savait que ça aurait pu virer en idole, ça aurait pu virer d'une façon ou de l'autre, mais aussi l'idée, c'est que ce que Dieu fait, on le laisse tel quel. Dieu a une volonté, puis se soumettre à sa volonté, on enlève le ciseau de notre volonté pour essayer de rendre les choses à notre façon, non. Pour être une pierre vivante comme ça dans ce saint sacerdoce, il n'y a pas la main humaine qui s'en mêle. Juste une application là-dessus. La manipulation, forcer quelqu'un à faire notre volonté, non seulement c'est malsain, ça peut être très dangereux et très destructeur. Vous savez, la volonté humaine est corrompue. Ça fait combien de fois qu'on récite le cœur humain est tortueux au-dessus de toute chose, okay, peut-être que Dieu voulait nous rappeler ça. Mais la volonté de Dieu, elle est comment? Elle est bonne, agréable et parfaite. Et donc, en tant que pierre vivante, Dieu nous a fait comme on est pour le but pour lequel il nous a créés. Qu'on ne mette pas le ciseau de la volonté humaine pour nos vies puis pour celles des autres en essayant de les manipuler pour essayer de gâcher ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, petite parenthèse, est-ce que ça veut dire que je ne devrais pas dire rien à personne quand je vois quelqu'un qui s'égare? Non, on doit s'exhorter les uns les autres, s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. mais d'imposer ma volonté sur celle des autres, ce que moi je crois donc, on doit aussi voir que Dieu, c'est son œuvre. Et je veux juste continuer sur cette illustration-là. Vous savez, une des choses qui est dure des fois, c'est voir quelqu'un qu'on aime, puis qu'on veut voir virer d'une façon, qu'on veut... Puis c'est pas dans le temps qu'on veut, c'est pas la manière qu'on veut. Finalement, il n'y a rien qui marche comme nous on voudrait. C'est quoi la tentation dans ce temps-là? D'intervenir, sortir les ciseaux, puis vouloir tailler la pierre. Est-ce qu'on aide Dieu, vous pensez, dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a un temps pour parler et dire « Attention, tu vas te faire mal. Attention, c'est dingue. » Mais est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître que je ne peux pas vouloir à la place de la personne. Je ne peux pas sanctifier la personne si elle est sauvée. Je ne peux pas la sauver. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sanctifie. Comprenez-vous le point ici? Si on veut que ça soit quelque chose que Dieu bâtit puis qu'il y a sa signature, il faut qu'on le laisse bâtir. Le ciseau de notre volonté humaine doit être mis de côté. L'image aussi d'une pierre vivante que Dieu utilise. Vous savez, ça dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage. Car vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est-à-dire que Dieu nous a fait d'une telle façon à dessein, dans son but. Et Dieu nous a donné un rôle, une place que lui a assigné. Et la beauté de l'œuvre de Dieu, c'est justement ça. C'est que c'est lui qui a décidé comment ça allait être. Quelle pierre, qu'elle a à telle place, puis qui allait faire quoi. On a besoin d'accepter sa sagesse qui nous a recréés. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été... Vous êtes dans le fond une nouvelle création. Vous avez été créé comme ça en Jésus-Christ avec une spécificité propre. Des fois, on a de la misère à l'accepter. Parce que c'est bien beau de dire ça un dimanche. Ah oui, c'est le fun. Puis ça. Mais des fois, on a de la misère. Des fois, on regimbe. On regimbe contre les plans souverains et bienveillants de Dieu. Souvent, on a de la misère avec le côté souverain et bienveillant. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est bienveillant. Dieu est bon. Mais Dieu est souverain. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de dire à Job, « Job, t'étais où quand j'ai fait la terre? » C'est-tu quoi? J'ai décidé de faire ça avec toi. Dieu était souverain dans la vie de Job. Puis Job n'avait rien à dire sur ce que Dieu faisait dans la vie de Job. Parce que Dieu faisait ça pour sa gloire avec Job. Même chose pour nous. Notre chair a de la misère avec la volonté de Dieu. Plus qu'il y a de la misère. Notre chair ne veut rien savoir. Elle ne peut même pas s'y soumettre à la volonté de Dieu. Donc, il y a un réel combat. Un réel combat entre se confier en l'Éternel de tout notre cœur versus s'appuyer sur notre propre sagesse. Mais lorsqu'on reconnaît, qu'on accepte, je dirais même plus qu'on célèbre, qu'on loue le Seigneur pour sa sagesse d'avoir voulu les choses ainsi, de nous avoir fait comme on a fait, de nous avoir placé où est-ce qu'il nous a placé, pour son œuvre, alors là, on commence à comprendre c'est quoi être une pierre vivante dans l'édifice du Dieu vivant. Là, on commence à comprendre que, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Là-dessus, il y a quelque chose que je veux souligner, qu'on commence à voir, puis j'encourage ça, le ministère mutuel des uns envers les autres. L'Église, c'est pas un one-man show, l'Église, c'est pas... Chacun nous a équipés différemment, puis j'aime ça, ça réjouit mon cœur de voir que quelqu'un va voir un autre qui pleure avec, qui rit avec, qui le console, qui fait juste des fois être là. C'est ça une Église. C'est les pierres comme ça qui s'édifient les uns les autres. Puis à un moment donné, le Seigneur t'a montré ça, puis cette personne-là, cette situation-là. C'est pas toutes les mêmes personnes qui font toutes les affaires. C'est chacun qui fait ce que Dieu l'a placé pour. Pas sûr que la syntaxe de cette phrase est très bonne. Mais c'est pas grave, vous êtes tellement gracieux et plein de pseudo gracieux non plus. Gracieux, c'est comme tant de même, mais bon. Vous êtes tellement plein de grâce et de gentillesse que vous allez comprendre. Je veux amener tout ça à un point central. Dans l'Église du Dieu vivant, chaque membre, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une mère, un père, célibataire, peu importe, chacun est là à dessein et irremplaçable. Puis ce qui ira précieux chaque personne, c'est que Dieu est allé les chercher pour les mettre là où est-ce que lui veut les mettre. Pensez à ça. Ça n'a rien à voir avec Babel, là. C'est pas toutes des briques pareilles. Oh, il y en a une qui boit, on la piche par la fenêtre. Non, c'est précieux. C'est une pierre vivante que Dieu a ramenée, à qui Dieu a donné la vie. Une pierre qui n'était qu'une pierre, mais qui est devenue vivante par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Et j'ai souvent dit ça, et je le répète, et je ne me tannerai pas de le répéter. Vous êtes ici puis vous êtes un chrétien, vous réclamez le nom de Jésus-Christ pour le salut de votre âme, votre identité, c'est Jésus-Christ. C'est pas votre passé, c'est pas la personnalité, la façon que votre caractère, votre identité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vous a racheté, c'est lui qui est votre identité. Puis, à cause de ça, vous savez, Dieu nous a donné un nouveau nom, ça nous dit. Il a mis dans notre cœur un chant nouveau. Il a fait de nous une nouvelle création. C'est pas mal tout nouveau, ça, n'est-ce pas? C'est ça, notre identité. Et même si les chrétiens rattachent tous leur identité à une seule et même personne, nous sommes un en Jésus-Christ, la beauté de ça, c'est qu'on est tous aussi glorieusement uniques. Dieu est assez grand. On n'est pas tous copier-coller. Puis tu sais, quand on fait un petit découpage de main, puis brouh, on développe ça de main, ça fait des petits bonhommes tout pareils. C'est pas ça l'Église du Dieu vivant. C'est quelque chose de beaucoup plus glorieux, de plus beau, puis de vraiment unique. Et c'est ce qui fait que vraiment, on rend gloire à Dieu parce qu'on voit son génie créateur. Dieu, non seulement est le créateur, mais aussi il est créatif. Et donc, voici l'appel que j'ai là-dessus. C'est un appel un peu artistique. Message philosophique, appel artistique. Il est flyé, le pasteur, un matin, hein? Ouh! L'appel que je vous lance, c'est: quelle sorte de pierre vivante es-tu dans les mains du sage architecte? Celle qui insiste, qui résiste, qui rejette par rapport à son œuvre, parce que c'est pas à ton goût. On sait tous, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité de insister, résister, rejimber de la sorte. Et donc, peut-être que ce matin, le Saint-Esprit est en train de te montrer que tu as besoin de t'humilier, de te repentir et de mettre ta confiance non pas dans ta propre sagesse, mais de te confier en l'Éternel de tout ton cœur, avec son plan, ses desseins, comment lui veut les choses. La volonté de notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est révélée dans les Écritures, c'est qu'on soit docile à l'Esprit de Dieu, qu'on le laisse faire son œuvre, là où il nous a placés, comment lui il le veut, puis comment lui il veut accomplir les choses, comment il veut accomplir cette œuvre d'édification mutuelle pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et dans notre texte, on a une référence au nom sauvé. Ça dit que l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Christ peut être notre joie, notre sécurité, mais si on ne lui croit pas, s'il n'est pas notre confiance, on va trébucher dessus. On va être écrasé par cette même roche sur laquelle on pourrait édifier toute notre vie. Donc, est-ce que tu te heurtes à Christ ou tu te réjouis en lui? Est-ce que Christ est pour toi une affaire qui t'est imposée, une affaire qui t'est extérieurement demandée dans ta vie? Ou est-ce que c'est ta sécurité, ta joie? Je vous donne juste quelques versets par rapport à ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est un appel au salut, ça. Écoutez aussi Hébreux, chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendaient. Est-ce que tu as reçu par la foi le cadeau de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, tu peux être réconcilié avec Dieu. Et pour mes amis ici qui sont sauvés, qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme on l'a vu dans notre texte ce matin, est-ce que vous poussez les gens autour de vous à se rapprocher de Dieu par votre attitude, par votre conduite, par vos paroles? Ou est-ce que vous les repoussez? Les poussez-vous à la croix ou vous les repoussez loin? Mes amis, à tout coup, si vous exaltez celui, Christ, la pierre angulaire, celui qui les appelle à lui, et que vous vivez à la lumière de sa grâce, si vous vivez à la lumière de là où le péché a abondé, que la grâce a surabondé, parce que le péché abonde autour de nous. Ça a même sorti dans la prière. C'est choquant de voir les autorités, comment elles sont corrompues, puis comment elles sont contre Dieu. Mais est-ce que Dieu peut faire de quoi avec ça? Est-ce que Dieu est plus grand que ça? Est-ce que Dieu peut même sauver notre premier ministre? Amen. Absolument! Est-ce que c'est notre attitude ou est-ce qu'on a une attitude dure avec les autres qui repoussent? Mes amis, lorsque Christ a été visité par des Grecs qui voulaient le voir, Jésus a dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et il référait à son heure de gloire. Et c'est quoi? Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Lorsqu'on élève Christ, la croix de Christ, la rédemption qui est en lui, c'est ça qui attire les gens à lui. C'est pas plus compliqué que ça, mes amis. Nous, en tant que pierre vivante, on glorifie, on exalte celui qui est le sage architecte, la pierre angulaire. C'est comme ça que Dieu bâtit. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ah oui, merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu prendre à s'asseoir autour de ta parole, avoir ce repas spirituel, être nourri des paroles de vie. Merci que tu es notre pain. Tu es l'eau vive. On est venu aux sources abondantes. On te remercie, Seigneur. On se réjouit de cette grâce. Ah, mais on ne veut pas que ça soit en vain. On ne veut pas s'en aller ankylosé et être séduit par le confort, les distractions de ce monde. Oh non, Seigneur, protège-nous de ça. On ne veut pas retourner dans nos pantoufles. Seigneur, on désire s'édifier les uns les autres. On veut aussi, Seigneur, céder notre volonté à la tienne. Jeter par-dessus bord ce ciseau de la volonté humaine pour essayer de tailler la pierre comme à nous autres on la voudrait. Non, qu'on ne touche pas ce qui est saint avec nos mains souillées. Qu'on laisse les choses telles que tu les as faites. Parce qu'elles sont bonnes, agréables et parfaites. Même si nous, on ne comprend pas, même si on a de la misère avec ça, c'est pas ça l'important. C'est toi. Ah, Seigneur, qu'on voit tout à la lumière de ton œuvre, de qui toi tu es. Merci, Seigneur, pour cette vérité simple des briques et des pierres. Mais combien profonde, combien riche. Que ce soit la méditation de notre cœur. Et maintenant, Seigneur, alors que ton peuple va répondre à ce que tu as dit à chacun des cœurs, puisses-tu être glorifié, élevé au milieu de nous comme étant le sage architecte, celui qui bâtit selon ta volonté. On s'en remet en tes mains. Au nom de Jésus. Amen.